Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue. Studio Tamani 18h15, auditrice, auditeur, bonsoir. Le forum de la presse de ce vendredi 24 avril réunit trois journalistes, Ami B. Cissé de Radio Séné FM, Mamadou Cissé, journaliste indépendant, et David Dambélé de Dépêche du Mali. Avec eux, nous allons évoquer trois sujets qui auront marqué la semaine. L'annonce de la signature de l'accord de paix qui sera donc signé ici à Bamako et pour mettre fin à la crise qui secoue les pays. C'est prévu donc pour le 15 mai. La situation sécuritaire qui s'est sensiblement dégradée dans le septentrion malien ces dernières semaines et les événements tragiques survenus dans la Méditerranée ces 15 derniers jours. Studio Tamani. Bienvenue à toutes et à tous. Après une semaine de rencontres qui a réuni les acteurs de la crise malienne à Alger, une rencontre qui était initiée par la médiation et qu'on avait voulu au départ comme une cérémonie de paraphe du pré-accord de paix par la coordination des mouvements de l'Azawad, on a appris la nouvelle. L'accord de paix sera signé à Bamako le 15 mai prochain, alors que la CMA n'a pas encore paraphé le pré-accord. C'est tout de même une bonne nouvelle, non? La question s'adresse d'abord à Ami B. Cissé de Radio Séné FM.
Merci beaucoup. Nous vous remercions pour la confiance renouvelée, non seulement à la radio, mais aussi à ma personne. Je crois que c'est pas une bonne nouvelle pour moi parce qu'il faut éviter souvent de danser plus rapide que la musique. Lorsque dans un conflit, dans une incompréhension, celui, l'élément principal d'ailleurs aujourd'hui, c'est la CMA. Si vous signez un accord, que vaut cet accord? Moi, je crois que les autorités sont en train encore beaucoup plus de montrer leur incapacité et leur désespoir. Parce que ici, c'est sauter sur quelque chose qui n'aura pas de lendemain. Quel que soit ce qu'on dit, nous sommes un Mali qui a souvent des valeurs qu'on appelle valeurs de dialogue. Je crois qu'on ne doit pas se lasser de dire qu'on est fatigué et qu'il y a des discussions inutiles. La CMA, qu'on le dise ou pas aujourd'hui, même si les Malais ne l'aiment pas, nous ne l'aimons pas, mais quand même, ils sont fondamentaux. Dans ces négociations qui sont en train d'être vues comme le 15. Et rien ne nous dit que ce 15-là, l'accord va être signé. Donc moi, je ne suis pas du tout optimiste. Je crois qu'on doit encore réfléchir à deux fois.
Alors, Mamadou, David Dambélé d'abord. David Dambélé de Pêche du Mali.
Alors moi, ma réponse est très mitigée là-dessus. Je souscris entièrement à ce que mon confrère vient de dire. Il faut être animé d'un doute réel parce que quand on voit la façon dont les événements se déroulent, et, bon, fondamentalement, le contenu, voir un peu ce qui a été validé par les deux parties, on voit bien entendu que les enchères sont en train d'être montées et en faveur de qui ? Vous savez que la partie autorité malienne est visiblement en position de faiblesse par rapport à ce qui se trame à l'horizon. Donc, encore une fois, le doute est très permis quant au paraphe de ce document-là par la partie groupe rebelle.
Mm-hmm. Mamadou Cissé, vous êtes journaliste indépendant.
Ok, bonsoir à tous et à toutes. Moi, mon point de vue est un peu différent de ceux des confrères présents autour de cette table. Moi, c'est d'abord, qui est-ce qui a demandé qu'il faut faire la signature à Bamako? Ce n'est pas le gouvernement malien ce que se cherche. C'est les médiateurs, à leur tête l'Algérie surtout, qui a demandé que l'accord sera signé le 15. Est-ce que le Mali va dire non, on n'est pas d'accord, il faudrait d'abord passer par l'étape du paraphe? Donc, dans la mesure où l'étape de la signature est l'étape ultime, donc si ils peuvent promettre au Mali que cet accord sera signé avec la CEMA, c'est une bonne chose. Mais le gouvernement malien, je pense que fera son job, c'est d'organiser cette cérémonie. Maintenant, si la CEMA participe, c'est bien. En ce moment, vos inquiétudes seront prise en compte, mais si l'enseignement ne paraît pas, là encore, il y a le retour de manivelle qu'il faut voir derrière. Mais moi, je pense que pour ce qui concerne la situation du gouvernement, et le gouvernement est dans son jeu réel, et il suit ce que l'Algérie... Parce que c'est l'Algérie qui avait dit que l'accord sera paraphé le 15 avril. Donc, si cette même Algérie revient que non, ce ne sera plus le paraf, mais ça sera la signature à Bamako, alors, qu'est-ce que le gouvernement peut faire? C'est de suivre. Voilà, moi, je pense que on peut rester optimiste quant à la signature de cet accord par toutes les parties, à savoir le gouvernement malien, la plateforme et puis la CEMA.
Ami Bessi, c'est qu'ils ne sont pas d'accord.
En fait, bon, je dirais qu'il m'a pratiquement rejoint, mais il a clairement dit que sa position était différente de la mienne. Moi, ce que je voudrais lui signifier, c'est que l'Algérie, dans cette histoire, depuis que ça a commencé, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie, à un moment donné, n'a fait que voir le Mali souffrir. L'Algérie a été contrainte par la communauté internationale de prendre cette médiation. Et l'Algérie n'a pas réussi à faire signer la CMA lors de ce qui a été prévu le 15 avril. Ce n'est pas que l'Algérie n'a pas voulu. L'Algérie n'a pas pu. On a vu que le premier ministre malien est sorti à la télé pour dire des grandes choses à la télé. Mais pratiquement, c'est une véritable défaite politique à ce niveau. Parce que l'Algérie qui a amené le Mali, l'Algérie aujourd'hui, est en train de perdre pratiquement la main. La CMA n'écoute plus l'Algérie parce qu'ils ont des revendications qui doivent être introduites dans l'accord. Je ne dirais pas que ça se fera ou bien que ça ne se fera pas, mais comme ces groupes rebelles aujourd'hui sont beaucoup plus crédibles que l'Algérie et le Mali aujourd'hui, à mon avis, parce qu'ils ont dit non, parce qu'ils sont... Ils sont censés consulter une base, peut-être qui n'existe pas, mais quand même, ils sont restés derrière cette base. Alors que le gouvernement qui aurait dû faire ce travail en amont est en train de le faire en aval. Tout le monde sait que cet accord-là est en train de poser beaucoup de problèmes dans la communauté, dans la société malienne. Mais n'empêche, on veut une paix. Mais j'ai dit que si ce n'est pas signé, si une cérémonie est organisée ici au Mali, ce sera une cérémonie à volo parce que la principale force qui est la CMA risque d'amener les choses en arrière. Voilà.
L'avis de la mairie ?
Bon, et moi, je suis plutôt confus, trouble par rapport au jeu dont joue cette médiation-là. Je ne vois pas l'Algérie seulement. En fait, derrière l'Algérie, il y a les autres parties prenantes de cette médiation, dont le Niger, le Burkina, le Tchad. Et derrière tout ça, la communauté internationale. Je me demande à quoi joue cette médiation-là avec le cachet de la communauté internationale. Et je pense qu'elle a suffisamment la main outillée pour qu'on aboutisse à la signature définitive de cet accord-là.
Après tout, nous sommes quand même le 24 avril et la signature est prévue le 15 mai. Et dites, est-ce qu'on doit s'attendre au fait que la coordination revienne sur sa position avant cette date? La question s'adresse en premier lieu à Mamadou Cissé, le journaliste indépendant.
Oui, déjà, je ne regarde pas dans une boule de cristal parce que moi, je n'avais pas pensé qu'on arriverait à ce stade sans le paraf d'abord de la CEMA, honnêtement. Mais maintenant, vraiment, moi, je me pose des questions. Je me dis, qu'est-ce qui fait que la CEMA ne signe pas? D'abord, de prime abord, ils disent que les préoccupations majeures n'ont pas été prises en compte. Mais quand on essaie de voir la situation qui est en place, le Mali dit, on ne va plus négocier, c'est fini, ça, les négociations sont derrière. La CEMA dit, il faut négocier, sinon on ne va pas signer. Donc, vraiment, il y a une rupture très flagrante entre les deux positions. Mais moi, la question que je me pose, c'est pourquoi la CEMA n'a pas voulu dire ça dès le départ, que tant qu'il n'y a pas fédéralisme, tant qu'il n'y a pas autonomie ou quelque chose de ce genre, on ne signerait pas. Parce que l'idée, c'est ça. Alors que ça, c'est la ligne rouge qui a été tracée, qui ne doit pas être franchie du côté malien. Donc, ces gens-là sont proches de quel feu? Parce qu'ils sont entre deux feux en réalité. Le feu de la communauté internationale, eux, le feu de la base. Comme ils le disent, c'est le contenu de la base, c'est-à-dire de fixer est-ce que la base là, c'est une population ou ce sont des narcotrafiquants qui leur disent attention, vous êtes en train d'aller dans des directions très très gauches, ne faites pas ceci. Donc je me dis que je ne saurais dire qu'ils vont le faire. Mais tout comme fait, la pression monte de plus en plus. Parce que quand on écoute les chancelleries internationales qui existent, les pressions sont en train d'être bien mises en branle. Et puis, les paroles commencent à être un peu plus précises. Quand on prend, par exemple, les propos de Gilles Berson, l'ambassadeur du Mali, qui dit maintenant qu'il faudrait que les uns et les autres s'acheminent vers cette signature-là. Et que les uns et les autres qui... participeront pas à cette signature seront considérés comme les ennemis de la paix. Donc, il y a plus de précision autour de la pression, mais je ne saurais dire s'ils vont le faire ou pas, parce qu'ils sont maîtres dans l'art du volte-face, quoi.
À présent, nous allons demander à Ami BCC de nous dire sa position sur ce point.
Mais moi, je ne fais pas trop confiance aux diplomates. On le dit souvent, ils trahissent tout sauf leur serment. Vous savez, diplomatiquement, on ne peut pas résoudre ce problème si réellement on ne voit pas le bout du tunnel comme on espère le voir. La CMA, c'est très clair, la CMA a une partie de cette communauté internationale derrière elle, qu'on le veuille ou pas, ça c'est un fait qui est là. Maintenant, par rapport à ce que mon confrère vient de dire tout de suite, qu'ils vont le signer ou pas, ça fait combien de temps? Moi, je crois que le jour du paraf était aussi important que le jour de cette signature.
Alors, il y a lieu de faire peut-être une remarque dans ce même studio. Nous avons l'habitude de joindre les responsables de la CMA. Nous en avons fait très récemment. Mm-hmm. Alors, le langage qui est tenu est celui-là. Nous n'avons pas paraffé. Nous n'avons pas dit que nous n'allons pas paraffer. Il n'est pas exclu que nous paraffions. Donc, ça veut dire que tout est possible avant le 15 au mai, non?
Mais comme l'a dit aussi mon confrère, ça, il y a une rupture entre les différents protagonistes. Parce que les principaux acteurs, c'est l'État malien et puis ces groupes armés. Moi, je me dirais que la communauté internationale, comme le dit le premier ministre, doit prendre sa responsabilité. Il y a un problème qui se pose. Il faut qu'entre Maliens, d'abord, on s'entende. Et s'il y a des points sur lesquels l'un n'est pas d'accord, on doit encore discuter, que ça aboutisse ou pas. Mais fermer directement les robinets pour dire qu'on ne discutera plus. Le Mali avait dit qu'il n'ira pas en Algérie, mais on a vu qu'ils étaient partis le 15 passé pour peut-être espérer autre chose. En fait, moi, je crois qu'ils vont signer, mais peut-être pas dans ces conditions. Les choses vont bouger et c'est des gens beaucoup plus crédibles aujourd'hui que le Mali. Pourquoi? Parce que ils sont restés sur leur position. Moi, c'est inacceptable, c'est inadmissible qu'un État, souverain, pieds joints, se mette dans un accord comme ça avant ces groupes rebelles et qu'on est aujourd'hui en train de courir entre une communauté internationale complètement ambiguë qui ne sait même pas à quel jeu il joue. On n'est pas encore sorti de l'auberge.
David de la Mairie.
Oui, ben moi, je pense que ils vont signer, mais à quel prix? Ça, c'est la question que je me pose à tout instant. Parce que quand on regarde un peu dans le fond de ces accords-là, c'est pas pour rien que certains analystes ont déduit que c'est une partition. Bon, la notion de fédéralisme est de fait consommé dans ces accords. Bon, moi, j'ai replongé cet après-midi dans le texte au niveau du chapitre 3 qui traite du cadre institutionnel et de la réorganisation territoriale. Il est clairement dit au niveau de l'article 6 que les partis conviennent de mettre en place une architecture institutionnelle permettant aux populations du Nord, dans un esprit de pleine citoyenneté, de participer, de gérer leurs propres affaires sur la base du principe de libre administration. Vous voyez, donc, et moi, je me dis, ça c'est déjà une position qui de fait, les avantage sur un certain plan. Maintenant, est-ce qu'ils vont vouloir monter encore les enchères? Quand est-ce qu'ils vont accepter finalement de paraffer ce document? Ce sont des questions que je me pose.
Mamadou Cissé.
Oui, moi je vais juste élargir un peu cette notion de c'est-à-dire la dynamique dans laquelle déjà les partis se sont engagés. Dire que si par exemple il faut prévoir tous les scénarios en réalité maintenant à partir de cet instant, que à supposer qu'ils ne signent pas, comme l'a dit le confrère Cissé, l'accord n'aura pas, son application va poser beaucoup de problèmes parce que nous sommes faibles vis-à-vis d'eux militairement déjà et que la communauté internationale aussi n'arrive pas à faire le jeu en faveur du Mali de manière pleine et entière. Mais moi, je pense qu'il serait aussi intéressant de voir un autre scénario, de faire de faire la négociation à l'ivoirienne, c'est-à-dire de faire la négociation directe maintenant, éliminer l'Algérie, faire comme Laurent Gbagbo l'avait fait en son temps, faire une négociation directe avec la rébellion, et je crois que c'est des solutions qui peuvent marcher au finish.
Alors, 18h30, dans quelques secondes, nous allons observer une pause.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
pour le Forum de la paix de ce vendredi. Trois invités, Ami B. Cissé de Radio Séné FM, Mamadou Cissé, journaliste indépendant, et David Dembélé de Dépêche du Mali. Et premier point abordé, c'est l'annonce de la signature d'un accord de paix ici à Bamako le 15 mai prochain. Alors, dites-nous à présent la question de la signature de cet accord. Est-ce qu'elle ne va pas provoquer une scission au sein de la coordination des mouvements armés? La parole est donc à Ami BCC.
Ok, justement, juste un petit rebondissement sur le dernier chapitre passé. Tout de suite, on parle de l'accord. L'accord a dit quoi? On dit qu'après le paraphe, on se retrouve à Bamako et qu'on discutera des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Tel n'aura pas le cas. Et qu'est-ce qui a été dit? On dit que l'article 65 dit que rien ne peut être modifié dans cet accord. C'est la vérité qu'il y a aujourd'hui des points. Si le gouvernement n'est pas d'accord, il n'y aura pas de modification. Si la CMA n'est pas d'accord, donc je crois que c'est une négociation de sourds à ce niveau. C'est déjà verrouillé par l'article 65.
Parce que c'est justement de la CMA. Est-ce que tout le monde a la même position? Est-ce qu'au sein de la CMA, il n'y a pas des gens qui veulent signer ces documents?
Vous savez, nous l'avons toujours dit et nous l'avons toujours vu que ces groupes armés sont pratiquement souvent solidaires les uns des autres. Ils n'ont pas les mêmes intérêts, mais souvent... Ils font bloc. Et moi, j'ai beaucoup plus confiance à ceux-ci qui ont refusé que ceux-là aujourd'hui qui sont derrière.
Oui, et dans... mais excusez, il y a eu quand même quelquefois des discours contradictoires en leur sein.
Il n'y a aucun problème. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas été signé. On avait dit que les HCI allaient paraffer, mais est-ce qu'ils l'ont fait? Et même ici, sur votre plateau, ils l'ont dit qu'ils allaient paraffer, mais est-ce qu'ils l'ont fait? La question, c'est à vous qu'on la retourne. C'est des gens qui disent ce qu'ils ne feront jamais. Mais au moins, quand ils disent non, souvent, ils disent non. Donc, votre question précédente, c'était laquelle? Excusez-moi, rappelez-moi.
Je disais s'il n'y a pas de risque pour la coordination par rapport à la signature de ces documents, parce que la situation est telle qu'il n'est pas exclu qu'il y ait une scission au sein de cette coordination.
Mais justement, de toutes les façons, il y a déjà des mouvements, les uns qui ne sont pas d'accord avec les autres. Mais le problème fondamental, c'est quoi? C'est qu'il y a le mot Azawad qui est un dénominateur commun à ces différents groupes. Chacun a sa façon de gérer et sa façon de voir. Si on peut dire que sur le plan peut-être intérieur, il y en a, mais ça c'est même au niveau du gouvernement. On voit que même dans la société malienne, tout le monde n'est pas d'accord avec cet accord. Donc c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire que ça va faciliter les choses. C'est d'ailleurs ce qui va beaucoup plus compliquer les... Parce que s'il y a un groupe qui va se mettre hors de cette coordination, ça va être une guerre dans la guerre. Et au lieu de faciliter les choses, mieux vaut avoir affaire à un seul adversaire que d'avoir autant. Chacun va faire monter les enchères, comme l'a dit mon confrère.
David de Damélie.
Oui. Oui, je crois qu'il y a déjà le spectre de cette scission s'est signalé depuis les événements que nous connaissons actuellement. C'est des groupes disparates, mais comme le confrère l'a dit, il y a toujours un point commun, un dénominateur commun, l'Azawad. Je pense que ces gens, ils ont un créneau pour se faire comprendre, accepter la position des uns et des autres. Je pense qu'ils vont arriver à pouvoir fédérer certainement leur position avant une probable signature. Je pense qu'ils ont ces moyens, ils ont ces ressources, ils ont ces capacités, mais je maintiens qu'il y a, une divergence de position, divergence de vue qu'on sent régulièrement chez eux.
Mamadou Cissé.
Oui, c'est ce que le gouvernement souhaite, s'il y a scission. C'est ce que tout le monde souhaite, que les uns et les autres ne soufflent plus dans la même trompette. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, du paraphe jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans une dynamique uniforme. Même si les confrères parviennent à dégager deux tendances majeures en disant que d'abord, il y a les ailes dures, à savoir le MNLA, et puis le HEA et le MAMA sont un peu flexibles. Mais la réalité sur le terrain dit quoi? Cette réalité dit que ils sont là, ils s'entrent, ils se soutiennent mutuellement, mais moi je pense que avec le temps et avec la pression, avec les menaces qui peuvent être proférées vis-à-vis des uns et des autres, il y a peut-être une mince chance qu'il y ait scission afin que nous puissions arriver à la signature. Mais pour le moment, l'histoire leur donne raison qu'il n'y aura pas scission. Hein.
Si la coordination signait ce document, l'accord en question, est-ce qu'on doit s'attendre, on devrait s'attendre à la fin de la crise? La question en premier lieu à Ami BCC.
Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord qu'un accord ramènera la paix au Mali.
Mais même si ce n'est pas de façon automatique, mais est-ce que ce ne sera pas un grand pas franchi quand même
Vous savez, voilà. Signer un accord, c'est beaucoup plus facile, mais le mettre en application, c'est la croix et la bannière. Et on a vu les accords de Ouaga, pratiquement qui auraient dû mettre terme pratiquement à tout. Combien de temps on a mis avant de mettre ces accords-là en application? Et du côté des groupes rebelles, ça n'a jamais été le cas. Ils n'ont jamais mis un iota de cet accord en application. Donc le problème va se poser. On va peut-être signer un accord, mais ça ne sera pas la paix garantie. Ça, c'est sûr et certain. Et on se dit même que ces engagements que le gouvernement s'est empressé de signer, ce sont des engagements que le gouvernement ne peut jamais prendre. Parce que la communauté internationale qui est en train de pousser ces autorités, à un moment donné, va arrêter de nous soutenir. Il ne faut jamais compter sur les autres. Vous allez prendre c'est un accord beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile que les accords précédents. Et on l'a pris, c'est un engagement devant la communauté internationale. C'est ce qui fait que ça va être plus compliqué. Ces groupes rebelles qu'on traite des minorités, souvent, la communauté internationale les voit d'un autre œil. Et souvent, on tente même de les protéger. Sinon, moi, je crois qu'aujourd'hui, cette solution aurait dû venir de balayer complètement et militairement ces groupuscules.
David Damien.
Oui, une chose est de signer ces accords. Une autre est que l'État s'arme, se trouve les moyens, les ressources nécessaires pour assurer la sécurité de ces populations. C'est là où le bas blesse. Il faut que nous assistons enfin à l'avènement d'un État fort capable d'assurer la sécurité territoriale. Parce que vous voyez, même au moment où les négociations se déroulent à Alger, la situation est délétère sur le terrain, est très critique. Il n'y a pas de jour où on n'entend pas de situation d'insécurité, d'attaque.
Cet aspect du débat, on va l'aborder dans quelques minutes.
Voilà, donc dire que la signature de ces accords va amener la paix, la stabilité, moi je ne suis pas d'accord, je suis très pessimiste là-dessus. Voilà.
Mamadou Cissé.
Oui, par rapport à cette position, il faut remarquer que s'il y a signature de cet accord le 15, ce que je souhaite, hein, pour les acteurs qui sont visibles, il est facile de faire la paix, c'est-à-dire entre le gouvernement et la CEMA, mais il y a des acteurs qui sont tapis dans l'ombre. Et puis d'ailleurs, ces mouvements utilisent le système de vase communicant. En fonction des forces de mouvement, ils basculent du côté. Il y a le Moujao qui est là, il y a l'ACMI qui est là. Ces forces-là ont déjà eu une emprise telle sur le terrain que pour les éradiquer, c'est pas une question d'une décennie. C'est vraiment un travail de longue haleine. Donc, la signature ne veut pas dire, n'implique pas logiquement la fin de la guerre, ou encore ne veut pas impliquer forcément la paix. Mais déjà, la signature peut ouvrir une grande porte pour aller vers cette paix-là, sachant bien que tous ceux qui vont maintenant s'ériger contre cette paix peuvent entièrement être considérés comme des ennemis et traités comme tels. Et en plus de cela, la mise en œuvre de l'accord du point de vue économique peut s'avérer un peu difficile, parce que le Mali n'a pas les moyens, il ne faudrait pas qu'on se berne là-dessus. Mais si la communauté internationale soutient, je crois que cet aspect peut être résolu, et les aspects institutionnels aussi peuvent aller. Mais pour ce qui est de l'aspect militaire, pour avoir un État fort, ça va prendre un peu de temps, et aussi, il y a les ennemis de la paix qui ne sont pas forcément les membres de la CEMA, mais
nous,
qui existent aussi.
Nous abordons à présent le deuxième volet de cette émission, un volet consacré à la situation sécuritaire du pays, une situation qui ne s'est pas du tout améliorée ces dernières semaines, bien au contraire, avec la multiplication des attaques terroristes dans plusieurs localités des régions du Nord. Cela devient préoccupant, non? La question, je l'adresse à Ami BCC.
Ben, aujourd'hui, moi, je crois que nous sommes retournés à la case de départ de 2012. Nous sommes exactement dans la même situation qu'il y a pratiquement 3 ans, où les forces maliennes sur le terrain, ou bien disons les autorités maliennes sur le terrain, prennent la poudre d'escampette. On voit récemment ce qui se passe. Moi, je crois que lorsqu'on laisse un peuple à lui-même, dans un pays aussi sérieux que le Mali, c'est inquiétant. Les attaques sont quotidiennes, les assassinats sont permanents. Et tout ce que le gouvernement trouve à dire, c'est des communiqués, c'est des condamnations et c'est des condoléances. Moi, je crois que c'est vraiment inacceptable lorsqu'on veut vraiment changer les choses. La situation va de mal en pire. Ce n'est plus un constat. Je crois qu'aujourd'hui, les Maliens, quotidiennement, ne font que faire leur deuil, et à un moment donné, ça risque d'amener une véritable révolte, une véritable révolution, nous ne le souhaitons pas. Mais quand même, il va falloir que sur le terrain, l'État soit beaucoup plus consistant en déployant, ou bien au moins en arrivant quand même à sécuriser les zones qui ont été libérées. Aujourd'hui, on a dépassé Kona. On a pratiquement dans la zone de Nyono. C'est pratiquement dans Bamako. Alors qu'on parle d'une armée à Kidal. On peut comprendre si l'armée n'est pas à Kidal, mais arriver à sécuriser les endroits qui ont été libérés, je crois que c'est une mission difficile.
David Damelé.
Oui, je pense que c'est à l'État malien de jouer véritablement son rôle. Hein. Vous savez que le confrère l'a dit, à partir de Mopti, c'est le no man's land. Personne ne se sent en sécurité. Hier ou avant-hier, tout près, les transporteurs ont refusé d'aller au nord. Ils ont refusé parce que les conditions sécuritaires n'y sont pas. Alors, si la situation perdure, je me demande où est-ce qu'on va aller. Je pense que on parle de les militaires, recasement ou alors au niveau de Kidal, les militaires, il y a certaines barrières qu'ils ne doivent pas franchir. Mais je pense que cette situation se vit de fait et dans même à Bamako. Vous voyez que quand il y a patrouille, généralement, ces forces de l'ordre, ils ne vont pas là où il y a le mal, ils ne vont pas là où il y a la menace. Ils se limitent, ils font juste le superficiel. Ils ne vont pas là où le problème est. Et donc je dis, il n'y a pas de patrouille, il n'y a pas de situation responsable qui se trame au niveau de ces régions, de ces localités du nord. Donc tant que la situation reste telle, l'insécurité va pulluler.
Mamadou Cissé.
Oui, moi je pense que la situation de sécuritaire du pays actuellement doit être corrélée à l'actualité factuelle. Le fait qu'il y a la pression qui est exercée sur la SEMA et ses acolytes qui sont à pied en nombre, ils vont faire tout pour saboter ce processus qui est enclenché.
Vous trouvez qu'il y a un lien entre
C'est évident parce que quand on prend un peu les assassinats qui sont faits, ce ne sont pas des citoyens lambda le plus souvent qui sont assassinés, c'est des gens qui sont pro-Mali entre guillemets, qui sont le plus souvent abattus ou bien qui sont quand même menacés de mort. Donc, il y a un lien, mais je pense que l'État malien ne peut à ce moment actuel que faire des communiqués, des trucs, parce que sur le plan militaire, nous avons beaucoup de faiblesses, il faut le reconnaître. Hein. Mais moi, je pense quand même que il ne faudrait pas que nous tombions dans la nervosité, qu'il faudrait que nous restions sereins, et que tous ces bruits de sabots sont là seulement pour essayer d'entraver le processus qui est enclenché. Et ce processus qui est enclenché, moi, je pense qu'il est irréversible. Il faudrait que chacun comprenne cela et qu'on revienne tous au sein de la République.
Et avec l'aggravation de la situation sécuritaire au Mali, à quoi vous vous attendez, vous, comme réaction de la part de l'État malien et de la communauté internationale, Ami BCC?
Mais écoutez, ce que vous venez de dire, le gouvernement ne le dirait pas, le président ne le dira pas. On leur demandera tout de suite comment va l'armée. Que ça soit vrai ou faux, on vous dira que l'armée est à même de garantir la sécurité des citoyens. Et tous les jours, vous voyez que c'est le même discours qu'ils tiennent. On sait que dans la réalité, ce n'est pas vrai. Mais le principal problème, c'est quoi? Aujourd'hui, on a une armée complètement démoralisée. Parce que c'est la communauté internationale même qui est en train de mettre une certaine pression qui décourage l'armée.
Mais peut-être, écoutez, le fuit à un moment donné, mais peut-être que les choses évoluent, non?
Mais les choses ne peuvent pas évoluer aussi facilement qu'on puisse l'imaginer. Vous voyez que lorsque des autorités dans un pays facilitent la libération des terroristes, qu'est-ce que les militaires feront? Aucun militaire ne risquera sa vie pour aller prendre un terroriste qui sera par la suite libéré. Donc je crois que c'est quelque chose qu'on doit... on doit forcément éviter. Mais le problème dont vous parlez tout de suite, c'est quoi? C'est que les militaires, on le dit, ils ont des moyens, mais ils sont des moyens aussi maigres qui ne leur permettent pas de faire face à des groupes rebelles qui sont drogués, qui sont dans la guerre depuis 30 ans, qui connaissent le froid, qui maîtrisent le désert. C'est des gens en permanence, ils sont dans leur jardin, entre grottes, ciel, arbres. C'est des gens vraiment auxquels on doit trouver une autre méthode qui n'est pas... celle qu'on est en train d'initier. Et au moins, il faut qu'on voit la bonne volonté du gouvernement. Tel n'est pas le cas. En réalité, aujourd'hui, il n'y a absolument rien de visible, encore moins au nord, beaucoup plus aussi de ces plus compliqués.
Dans quelques secondes, 18h45, la deuxième pause qu'on observe.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Nous revenons donc à la question à laquelle répondait déjà M. Cissé. Donc, l'aggravation de la situation sécuritaire, elle pose un certain nombre de problèmes. Et maintenant, que doivent faire l'État malien et la communauté internationale? C'est maintenant à David Damelé de Pêche Mali de répondre à la question.
Bien. Moi, je dis l'État malien doit jouer pleinement son rôle. C'est vrai qu'on parle de problèmes budgétaires, manque de moyens. Je pense que le régime en place avait fait beaucoup de promesses. Qu'est-ce que l'État fait actuellement pour que la sécurité soit assurée? Alors, j'ai dit derrière l'État malien, il y a toutes ces forces étrangères. Je dis qu'est-ce qu'elles font réellement? Elles ont émis, bien entendu, le vœu de soutenir le Mali à un moment difficile. Elles se sont déployées. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Il faut qu'il y ait de l'impact. Je pense qu'il faut qu'il y ait une synergie. Certes, l'État malien n'a pas les forces requises pour le moment pour faire face à toutes ces problématiques-là. Mais les forces étrangères, il faut qu'elles jouent également leur rôle. Voilà.
Les forces étrangères doivent jouer leur rôle. On a annoncé quand même des renforts qui viendront de l'ONU. C'est peut-être pour prendre le problème à bras le corps. Non, la question c'est à Mamadou Cissé.
Oui, moi, franchement, moi je suis sûr que ce n'est pas en répondant par la violence qu'on peut résoudre ce problème du Nord. On est dedans depuis l'indépendance. Hein. Il faudrait quand même, l'État quand même ne va pas laisser les populations aussi dans les mains de ces gens. Et il faut qu'on soit réaliste. L'État malien n'a pas les moyens pour quadriller tout le territoire. Même les forces qui sont là sont cantonnées dans des grandes villes, puis quelques villes secondaires. Mais parce que quand on lance, par exemple, une roquette sur Gao, et puis on essaie de voir que la portée de la roquette, ça fait 21, 30, 35 kilomètres, on se dit que donc, au-delà de 35 kilomètres de Gao, on est dans l'insécurité. Donc ça dessine tout le panorama de la situation sécuritaire de ce pays-là. Et l'État, à mon avis, doit, dans un premier temps, jouer sur ce qu'il dispose comme force pour essayer d'empêcher autant que faire se peut les bandits d'intervenir, et en même temps jouer plus sur l'aspect de l'accord, là, pour que l'accord soit signé. Parce qu'une fois que l'accord est signé, cela dénote de l'engagement des uns et des autres vers la paix. Mais sans cela, l'État malien seul, même avec les forces qui sont là, entre guillemets, pour les aider, ne peut pas arrêter ces gens. Mais il faudrait que cette paix-là, cet accord-là soit signé le 15
avril. Il est question que ces forces-là soient justement renforcées. Il y en a qui doivent arriver du Salvador, de la Slovaquie. Vous êtes au courant?
Oui, mais tout compte fait, ces forces vont toujours rester dans les mêmes villes que les autres. Le plus souvent, c'est ça. Les forces de maintien, on sait comment elles fonctionnent. Hein. Ce sont des forces, excusez-moi du terme, qui ne vont pas au charbon, le plus souvent. Voilà, elles ne vont pas au charbon.
Ami Bessé.
Oui, justement, ce sont des forces aujourd'hui qui sont pratiquement les vraies cibles des groupes terroristes et des kamikazes. Donc moi, je crois qu'au lieu de venir sécuriser la population, il faut que ces forces d'abord arrivent à assurer leur propre sécurité. Ça peut tranquilliser peut-être la population. Mais lorsque celui qui défend n'arrive lui-même pas à se défendre, la question va rester posée. Donc ça ne résout pas tout à fait le problème. Et moi, je crois qu'on n'évitera pas la guerre, quoi qu'on dise. Même si on signe un accord avec ces groupes armés, il y a les terroristes qui sont affiliés en Sardine. Le cas Iyad est encore là parce que lui, les accords ne l'ont pas pris en compte et on sait bien qu'il est influent. Il est là encore, quelque part, il rôde et il sait tout ce qui se passe.
Avant d'aborder le troisième volet, une question. Alors, le terrorisme, quand on en parle, on ne saurait vite oublier quand même l'attentat de la Terrasse. Elle avait été revendiquée par le groupe Al-Mourabitoun de Mokhtar, Bel Mokhtar. Des rumeurs le donnent pour mort. Ce n'est que simple rumeur, selon vous, en quelques mots.
Sans corps de Mr. Marlboro, je n'y crois pas.
Bon, vous savez, le suspense a duré sur la mort de ce monsieur-là. Les forces qui ont annoncé sa mort n'ont jamais prouvé qu'il est mort. Et c'est des déclarations. Nous en sommes restés à des déclarations comme ça.
Mamadou, Amibé Cissé, alors il y a deux Cissé.
Ce n'est pas la première fois qu'on l'annonce comme mort, donc je le vois comme le terroriste du Nigeria, chez Kaou, donc on pense qu'il est encore vivant.
Troisième volet, migration. Des centaines de jeunes ont trouvé la mort de façon tragique ces deux dernières semaines en tentant de traverser la Méditerranée pour atteindre l'Europe. Le drame a fait couler beaucoup d'encre. Côté malien, les blancs semblent lourds. Vous suivez ce dossier?
Oui, je suis ce dossier, mais il y a un, et je ne sais même pas par où commencer, parce que vraiment ça c'est la rhétorique lancinante qui intervient dans la presse. On sait que même dans 2 mois encore, le bilan va être lourd, dans 4 mois encore, le bilan sera lourd, dans 5 ans, c'est la même chose, c'est la même chanson qui sera toujours chantée, tant que les mêmes conditions socio-économico-culturelles existent. Au lieu de s'acharner contre le thermomètre, pour casser le thermomètre, je pense qu'il faut soigner la fièvre. C'est désolant ce qui se passe au niveau de la Méditerranée, parce que simplement les autorités du 21e siècle sont incapables d'assurer une vie décente à tout le monde. C'est tout. Et le problème, c'est ça, il ne faut pas aller chercher loin la situation. Quand il y a 50 Maliens qui vont se noyer dans la Méditerranée, parce qu'ils veulent atteindre l'Eldorado, qui n'est même pas un Eldorado, ça veut dire que ça chauffe chez eux. Et il faudrait qu'on trouve des solutions pour que de telles scènes ne se reproduisent plus. Ce n'est pas en se réunissant en catastrophe, pour prendre des mesures, on va tripler des budgets par-ci, par-là, qu'on va résoudre le problème. On ne va rien résoudre tant qu'on ne s'attaque pas au problème, à sa racine, à savoir le développement de ces zones-là.
Ben, je ne suis pas loin de ce que Cissé vient de dire. En fait, moi, je considère ces immigrants qui meurent quotidiennement, je les considère comme étant les martyrs de l'espoir et de la dignité. Parce qu'en fait, c'est des gens qui se disent qu'on ne peut pas rester ici. Nous avons une famille à nourrir. Nous avons des projets à réaliser. Donc, si ce n'est pas possible chez eux, ils tentent une aventure qui, pour certains, ça marche, mais malheureusement, la plupart du temps, c'est la catastrophe. Et c'est des gens qui ont affaire avec d'abord des circonstances naturelles. Il y a la mer, il y a le fleuve, il y a les montagnes, et il y a encore des aspects humains, à savoir les gardes-côtes. Il y a aussi les passeurs véreux.
Excusez-moi, on dit le plus souvent que les gens qui tentent cette aventure ne sont pas forcément des gens qui sont quand même si pauvres, parce que le coût que cela demande est assez élevé pour un Malien.
Oui, mais c'est ce que je dis, ce sont des gens qui ne sont pas aussi pauvres qu'on l'imagine. Mais le problème a été posé il y a longtemps. Moi, je crois qu'il y a une façon beaucoup... Vous savez, je prends l'exemple, si un Français veut venir au Mali, c'est beaucoup plus facile. Mais un Malien veut aller en France, c'est d'ailleurs pas possible. Pourquoi cette différence de traitement? Donc, cela veut dire que c'est chez nous qu'il y a le problème. Donc, s'il n'y a pas, si vous ne facilitez pas les moyens légaux de partir, ils vont trouver une autre méthode de partir. C'est tout simple que ça. Donc, je crois que c'est les autorités qui n'ont pas ni les mesures, ni les moyens, ni les soucis de prendre en charge cette population qui veut vaille que vaille se défendre. On prend le cas de Kaï. Kaï, une région aurifère où certains sont partis se débrouiller dans la recherche de l'or. Et lorsqu'on ferme, à quoi ces gens vont s'en tenir si ce n'est tenter ce drame qui malheureusement nous endeuille tous.
David Damélé.
Oui, moi je prends l'exemple sur ce jeune Sénégalais qui est parti de son pays, qui s'en est bien sorti. Il a affronté la mer. Il a fait un témoignage récemment qui m'a beaucoup frappé quand il a pris l'exemple un peu sur son cadre de vie. Tous ses collègues étaient partis en Europe. Lui, sa famille n'avait pas, était pratiquement la plus pauvre de la localité. Donc il a pris la mer, il est parti, et aujourd'hui il a bien réussi. Donc pour dire que je prends aussi un peu le témoignage de Pascal Canfin, l'ancien ministre français, qui pense, qui raisonne de la même façon que le confrère, il faut attaquer le mal à la racine. Le contraste entre les deux mondes est important. Donc il faut que ces États européens prennent conscience que ils ont ce devoir de réaliser l'équilibre, un certain équilibre. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir le même niveau de développement, mais en investissant, en faisant des investissements sérieux, par exemple, très suivi dans le cadre de la formation professionnelle, de l'emploi, je pense qu'ils réussiraient certainement à... Je ne dis pas, le risque zéro, il ne va pas exister forcément, mais ils vont réussir à réduire l'impact de ces départs massifs vers l'Europe. Voilà.
Mamadou Cissé, oui.
Oui, juste encore pour... quand vous disiez que ceux qui vont sont un peu riches par rapport à... Ils ne sont pas riches.
Pas riches, mais ça demande quand même des moyens.
Oui, mais des moyens, comment ils obtiennent ces moyens? C'est des gens qui peuvent travailler sur 5 ans, 6 ans, 10 ans pour obtenir 1 million. Mm-hmm. Et vous, quand vous faites le ratio sur le nombre de jours que constitue 5 ans, vous voyez que c'est minable. Mais derrière, il faudrait... Quand on prend par exemple le cas de la Libye actuelle, il y a au moins entre 500 000 à 1 million de personnes qui veulent traverser. Et donc, ça veut dire quoi? Que le monde actuel, la gouvernance actuelle du monde pose un problème. On vient, on casse tout en Libye, on crée la pauvreté, et cette pauvreté gangrène tous les pays qui sont voisins de cette zone, et vous créez des potentiels migrants. Donc il faudrait que les autorités internationales, la communauté internationale comprennent que tant qu'elle ne parvient pas à établir le minimum de conditions de vie, le minimum de conditions de développement, les gens iront. C'est pas ce drame qui va être le dernier. C'est pas en tirant sur des pirogues avec des avions qui va arrêter des choses. Et j'ai l'habitude de dire à un Américain que même s'ils mettent le filet au bord des États-Unis et de la France, les gens vont partir. Alors, tant qu'ici, les gens ne trouvent pas à manger du pain. C'est un peu plus simple.
Alors, en deux mots, est-ce que la responsabilité n'est pas engagée des deux côtés, les pays d'origine et l'Europe?
Bien sûr, moi je pense cela, parce que récemment le président Ibeka l'avait dit, il faut que les pays d'accueil et les pays de départ puissent vraiment se mettre en compte ensemble pour pouvoir juguler ces problèmes. Et vous voyez, l'Italie est le pays qui est le plus confronté à ces problèmes. Et l'Italie avait tenté à un moment donné de gérer, mais les autres pays européens ne l'ont pas suivi, parce que seule l'Italie ne peut pas gérer ça. Ils ont mis des moyens, mais des moyens qui malheureusement ne suffisent pas. Parce qu'une fois en Italie, on a la possibilité d'aller un peu partout en Europe. Donc ça risque de poser un problème. À partir d'ici, comme on l'a dit tout de suite, il faut que l'État se mette dans la peau de l'instance suprême, de permettre à ceux qui vont en aventure, qui sont malheureusement que des jeunes, parce qu'on ne voit aucun vieux là-dedans. Et de plus en plus, il y a des femmes aussi qui tentent cette aventure malheureusement. Donc je crois que quand l'espoir est là, quelque chose... est possible. Mais si tel n'est pas le cas, même demain, comme l'a dit, ils vont tenter de franchir ces barbelés, de franchir ces montagnes. Si ça passe, c'est ça.
David Damilé.
Oui, l'État a évidemment un rôle important à jouer. Et par rapport à l'encadrement, si l'État parvenait à encadrer ce secteur, ça serait d'un apport important dans la résolution du problème. En ce sens que il faut peut-être voir l'architecture institutionnelle, voir quelles structures on peut mettre en place pour assurer le minimum d'encadrement dans ce cadre-là. Et, bon, ça va faire en sorte que même ceux qui iront seront certainement dans de bonnes mains.
Mamadou Cissé.
Oui, moi je dis simplement que les deux côtés, il y a peut-être des responsabilités, mais la responsabilité est lourde du côté du monde développé. Parce que le plus souvent, il faut dire les choses telles qu'elles se présentent, c'est l'Occident qui s'accapare de toutes nos richesses là. Et c'est l'Occident qui crée la guerre en Afrique. Donc, face à la misère créée par l'Occident, on n'a pas d'autre choix que d'aller les rejoindre là-bas. Il faut qu'ils créent le minimum de conditions de vie ici, en épargnant l'Afrique de guerre et en essayant de faire du win-win tant que faire se peut. Et là, on peut atteindre un développement et on n'ira plus dans la Méditerranée.
Ami Bessé qui demande la parole, alors là,
je demande la parole juste pour dire bonsoir à tous ceux qui m'écoutent à partir de Tombouctou sur Radio Al-Farouk et sur Radio Diamana, parce que c'est ma ville, donc je leur dis bonsoir.
Et voilà, c'est la fin de cette émission, le forum de la presse de ce vendredi 24 avril 2015, un forum auquel ont participé Ami B. Cissé, Radio CNFM, Mamadou Cissé, journaliste indépendant, David Dambélé, de pêche du Mali. Alors, l'émission a été mise en onde par Peting Diarra, régie vidéo donc Mamadou Ouattara, réalisation Ousmane Diadié Touré. On se retrouve dans une semaine pour en fait un autre féro. En attendant, on vous souhaite un bon week-end.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani
wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.